France Inter.
To be or not to be, not to be.
Selon Carl Gustav Jung, le persona est le masque que l'on présente au monde. En gros, quand votre supérieur hiérarchique vous demande de faire une réunion Zoom à 17h45 à vendredi soir et que vous répondez « avec plaisir », alors que vous avez envie de couler ses pieds dans le béton et de laisser une tête de cheval mort dans le lit de sa mère, c'est votre persona qui a répondu. Le masque de la pression sociale. Le drag queen ou le drag king, à contrario, c'est le masque que l'on choisit, que l'on construit et qui libère. Le drag, il passe pas les déjeuners du dimanche en famille à écouter Tonton Christian dire que Bruno Retailleau ferait tout de même un bon Premier ministre et que Brigitte Macron amène un plus au casting d'Emily in Paris. Non, le drag, il fait ce qu'il veut et il va là où il a envie d'aller. Le drag ne subit pas le réel, il s'en venge. Cet aspect de l'art du drag m'a toujours séduit. Et en cherchant pourquoi dans ma mémoire, j'ai réalisé que c'était tout simplement parce que ça me rappelait les super-héros. Bah oui, Batman, c'est le drag king de Bruce Wayne. Le costume, la théâtralité, la gestuelle, le maquillage, la vie nocturne. Batman, c'est le drag que Bruce s'est créé pour gérer l'assassinat de ses parents. Peter Parker, un nerd qui n'a pas une thune, harcelé à l'école, devient Spider-Man, le roi de la petite vanne. Eric Lenscher, juif déporté par les nazis, se rebaptise Magneto, le maître du magnétisme. Enfiler un costume flamboyant et changer d'identité pour se venger d'un réel qui vous a martyrisé, si ça, c'est pas la définition d'un drag et d'un super-héros, je sais pas ce qu'il vous faut.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Gravure de mode. Je sais pas comment il fait, parce que moi en drague, je suis merveilleuse, hein. Mais après, quand tu me vois en civil. Bonjour.
Bienvenue dans Drag Race France.
Ouais.
Je voulais d'abord vous féliciter pour les choix que vous avez faits dans votre vie, qui vous ont mené ici, pour être des personnes libres, des personnes fières, des artistes.
Oh.
Je sais à quel point ces choix et ces chemins peuvent être difficiles. Il y en a du drap derrière ce glam, non? Alors applaudissez-vous. Nous allons célébrer ensemble le drag, cet art unique, festif et libérateur qui existe en France depuis très longtemps. Croyez-moi, Drag Race est loin d'être une partie de plaisir. Mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle. Le monde entier vous regarde, mais attention, une seule d'entre vous sera la reine des reines.
Drag Race, plus qu'une émission, un phénomène qui a pris de nombreux pays par surprise et particulièrement la France. Comment un concours de drag qui se balance des vannes qui ferait rougir d'envie la fine fleur du stand-up est devenu un des programmes les plus plébiscités du service public et a participé à une meilleure représentation des communautés LGBT dans un pays qui a encore énormément de travail à faire sur le sujet? Pour donner des éléments de réponse à ces questions, je suis entouré par Margot Réro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en études théâtrales à l'université Bordeaux-Montaigne et votre thèse s'intitule « À la frontière des genres, quand la drag queen réinvente le spectaculaire ».
Tout à fait.
Avec nous également, Carole Baquet, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez dans le milieu de la bande dessinée, mais si vous intervenez aujourd'hui, c'est en tant que grande fan de RuPaul's Drag Race et Drag Race France.
Ouais, surtout Drag Race France maintenant.
Avec nous, Apolline Bazin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et cofondatrice de Manifesto 21, média queer féministe en ligne, et vous êtes l'autrice de Un art queer qui agite le monde, paru en 2023 aux éditions EPA. Et enfin, Emilienne, ou alias Camomille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes drag queen et costumière de théâtre et vous avez notamment créé des tenues pour la drag queen Ruby on the Nail, Ruby sur ongle, candidate de Drag Race France saison 3.
Tout à fait.
Drag Race Germany.
Ladies.
Zum ersten Mal in Deutschland.
Ich bin so ready dafür.
Die Drags gehen an den Start.
Wow. Riesig.
Das heiße Rennen.
Dann bitte Kopfhörer auf.
No risk, no fun.
Cool.
El plátano de Canarias ha llegado a Drag Race.
La banana es una fruta que es de las Islas Canarias.
Mi punto fuerte como drag es que soy muy elegante, pero también soy muy ordinaria. Tengo comedia, soy una drag beauty, o sea, lo tengo todo.
I'm driven.
Another week of me doing mediocre.
Bring it to the hodgepodge.
A red wig and a silver dress.
Hodgepodge.
I don't think.
The nipples are the eyes of the face.
An adequate dress that is on my body.
The cheek.
The nerve, the gall, the audacity, and the gumption.
É o nosso Drag Race, bebê!
B-U-C-E-T-A. Bonita.
Porque só as nossas drags maravilhosas...
Acho que esse ano eu levo.
Tem seus altos e...
Apolline Bazin, comment est né RuPaul's Drag Race?
Ah, excellente question. Eh bien, c'est né déjà, on peut poser une date, c'est 2009. RuPaul n'était pas tout à fait, même pas du tout, inconnu au bataillon quand Drag Race, quand il a l'idée de lancer Drag Race avec le concours de ses producteurs et fondateurs de World of Wonder, la boîte qui produit toujours Drag Race. RuPaul a commencé sa carrière assez tôt et a été déjà une petite personnalité du paysage médiatique américain depuis la mi-temps des années 90, hein, la sortie de son hit Supermodel, c'est 94. Et son premier talk show d'envergure, c'était déjà 1996. Le nom m'échappe là tout de suite maintenant, mais c'était quand même voilà, déjà une première incursion dans le paysage audiovisuel américain. Bon, voilà, il a eu un premier moment de carrière et un passage à vide, et c'est à la sortie de ce passage à vide que, en fait, Drag Race marque la fin, on va dire, d'un creux. RuPaul a fait de la musique pendant cette période, pendant un peu toute cette période entre début des années 2000 et Drag Race, ça marchait pas super. Et en 2009, il y a cette idée. Et alors après, comment l'idée est venue, à part peut-être que voilà, je sais pas, il devait y avoir une intuition très forte. Que ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait voir dans des scènes underground que RuPaul a fréquenté, vraiment, il a fait, je pense, un peu tout le paysage new-yorkais d'une certaine époque. Il a aussi bien fait, j'imagine, assister en tout cas à des concours de beauté. Alors, il n'était pas trop dans la scène ballroom, dont pourtant on sent l'influence très très forte dans la fabrication, dans les codes de Drag Race.
Qu'est-ce que c'est la scène ballroom? Parce qu'il faut vraiment.
Bien sûr, ouais.
On part de très très loin.
Non, on va se compléter les uns les autres au fur et à mesure des réponses. Donc la scène ballroom, c'est un espace de célébration et de compétition pour les personnes à l'origine, pour les personnes noires et latinas queer qui est née début soit des années 70, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, le documentaire The Queen, c'est 68. Donc
Margot confirme.
Voilà, c'est bien, super. C'est parce que les dates, c'est toujours, il y en a beaucoup, mine de rien. Effectivement, comme l'histoire est longue, on n'est pas trop de plusieurs. La ballroom, c'est un espace à la fois, c'est un espace communautaire d'entraide pour des personnes qui sont à la marge de la marge, donc des personnes queer, mais des personnes queer aussi racisées et donc doublement victimes en tout cas dans les grandes lignes, de discrimination homophobe, transphobe et raciste. Et la ballroom s'organise autour de maisons, donc qui sont des familles choisies où des personnes plus âgées aident de plus jeunes personnes queer à s'affirmer, découvrir, organiser leur parcours de transition, devenir artiste, enfin, tout simplement voilà, s'apporter les soutiens basiques quand on est rejeté de sa famille. Et la communauté ballroom est organisée en compétition entre les maisons. Ça s'organise. Enfin, on voit ces compétitions qui peuvent être donc du défilé, de la performance de danse, majoritairement.
Et c'est une dimension de compétition bienveillante.
Alors, voilà, hein, ça mérite.
Il y a un côté un peu battle quand même, comme dans le rap américain.
Exactement, ouais, c'est bien plus ça. Je pense que la bienveillance, elle vient du profond respect, en théorie, que les personnes ont les unes pour les autres, mais il y a une culture, ça nous permet de bien expliquer en quoi la ballroom est vraiment fondatrice, un espace fondateur, parce que quand on regarde Drag Race, il y a énormément il y a de l'humour, il y a de la taquinerie qu'on appelle en anglais le shade, c'est cet art de bien appuyer là où ça peut faire mal en termes de défauts, ou en tout cas de se moquer d'une certaines manières, mais c'est pas gratuit, sinon c'est du harcèlement, en fait, tout simplement. Il doit y avoir un moment où on doit pouvoir faire comprendre à l'autre qu'on le considère, qu'on l'apprécie, et donc cette dimension il y a une dimension compétition, il y a une dimension féroce, mais il doit y avoir, voilà, il y a des règles où on respecte l'adversaire, quoi qu'il arrive.
Margot Rero, on a entendu dans le premier extrait que l'art du drag, en fait, existait bien avant l'apparition, évidemment, de Drag Race. Et donc, est-ce qu'on arrive à fixer une date sur le commencement de ce mouvement ?
C'est une question un peu compliquée, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'origine du mouvement drag en soi. Déjà, tout dépend de là où on se situe. Par exemple, en France, on n'a pas la même histoire qu'aux États-Unis, où nous, on a une histoire plutôt liée au cabaret, par exemple.
Oui, le travestissement avec Michou.
Exactement, oui. Et c'est vrai qu'on fait souvent remonter l'histoire du drag, enfin, on lit l'histoire du drag à l'histoire du travestissement spectaculaire. Et donc, on parle beaucoup, effectivement, du travestissement dans les théâtres antiques. Voilà, mais c'est vrai qu'à part dire que de tout temps, ça existait, ça raconte pas forcément grand-chose aujourd'hui de ces pratiques contemporaines. Pour moi, effectivement, on peut parler des bals travestis qui existaient à la fin du 19e, début du 20e, aux États-Unis comme en France. De la ballroom aussi, dont on vient de parler. Et en France, effectivement, des cabarets. Il y avait une artiste, Barbette, un trapéziste, qui performait au début du XXe siècle, qui du coup performait enfin se travestissait dans ses numéros et qui à la fin révélait en fait le fait qu'il était un homme. Et donc c'est un numéro qui avait énormément de succès et il performait dans les musicals, au cirque, etc. Et par exemple, Sacha Velour dans son spectacle dit que c'est une des origines du drag. Pour moi, c'est compliqué de dater vraiment. Je pense qu'il y a des.
Oui, en fait, ça a toujours existé sous une forme ou sous une autre.
Oui, en fait, ce que j'ai essayé de faire moi personnellement, c'est d'établir des lignes de force, montrer un peu qu'il y avait une sorte de filiation en récupérant aussi le vocabulaire qui était utilisé dans le milieu drag, c'est-à-dire on parle de maison, de mère, de fille, de sœur, et donc effectivement, beaucoup de drag aussi se réfèrent à des drags antérieures, notamment Drag Race qui effectivement cite à plusieurs reprises des performances qui étaient réalisées dans la ballroom scene. Et donc, il y a des filiations qui existent, mais il y en a, voilà, il y en a énormément. Donc, dire qu'il y a une origine du drag, pour moi, c'est impossible.
Carole Baquet, revenons à Drag Race, ce programme. Comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a séduit à l'intérieur de ce dernier ?
Eh ben, je l'ai découvert, j'ai découvert RuPaul's Drag Race. Je l'ai découvert il y a longtemps, ça devait être en 2013-2014, et en fait, je l'ai découvert grâce à Emilienne, enfin Camomille, justement, qui m'en a parlé.
Big up.
Ouais, big up. Et du coup, à l'époque, je regardais ça sur des sites de streaming, on ne citera pas les noms, même s'il doit être mort depuis.
C'était le dark web.
Ouais, pas loin. J'ai découvert ça, après, j'ai découvert ça parce que ben, moi, j'ai fait des études de théâtre. Et c'est de la performance, en fait. Et du coup, j'étais très curieuse de tout cet art et de tout ce que ça proposait. Et après, moi, ce qui m'a plu le plus aussi, c'est le fait de performer le genre. Le fait même, j'ai trouvé ça très libérateur en tant que femme, d'avoir des personnages qui performaient le fait d'être femme et en montrant les aspects positifs ou en le ridiculisant ou les aspects négatifs, etc. Et après, j'ai découvert aussi le monde des drag kings. Et après, je suis allée à des soirées pour voir des performances. Voilà.
Camomille, même question, votre rencontre avec Drag Race ?
Alors moi j'ai découvert Drag Race un peu plus tôt que ça, donc je pense que ça devait être en 2011. Et c'est mon ami Julien, qui est toujours très au fait de plein de trucs un peu chelous qui se passent sur les internets, qui un jour est venu me voir en me disant « Non mais... »
Ah, c'est ce Julien.
C'est ce Julien. Il m'a dit « Non mais j'ai découvert un truc de fou, tu vas adorer, il faut absolument que tu regardes et tout. » Et donc effectivement, on trouvait ça... la qualité était très discutable et il n'y avait pas de sous-titres. Moi, à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Et puis l'anglais de Drag Race, c'est quand même un anglais très particulier et tout. Donc je regardais surtout les images, mais oui, il y a un truc qui a explosé dans mon cerveau à ce moment-là. En fait, moi aussi, moi j'ai fait des études de théâtre et après j'ai fait des études d'art, de design, etc. L'aspect ultra pluridisciplinaire en fait du drag m'a percuté et m'a complètement chamboulé quoi. Et donc depuis, je suis plus jamais ressortie de ce chamboulement quoi.
Bien, même si on a du mal à identifier exactement l'origine du drag, il y a quand même un mot qui est revenu très souvent, c'est théâtre. C'est-à-dire que même au commencement, bah, les femmes n'avaient pas le droit de jouer leur rôle, donc c'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes. Donc j'ai l'impression que dans le théâtre classique a peut-être une filiation lointaine avec tout ça. C'est la faute aux poètes grecs.
Bah. Oui, bah après, pardon, mais c'est vrai que on parle aussi beaucoup du théâtre élisabétain, que le terme drag viendrait aussi de cette traîne que portaient les acteurs pour symboliser le fait qu'ils jouaient des femmes. Donc oui, c'est, je pense que ça, on peut tisser des liens. Mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Oui, il y a cette légende aussi qui dit que sur les textes écrits des pièces de Shakespeare, comme les femmes n'avaient pas le droit de citer sur scène, il y avait des didascalies qui disaient « dressed as a girl », donc ce serait un acronyme, drag serait un acronyme de « dressed as a girl ». Mais c'est, tout ça, c'est un peu des légendes. On ne sait pas, en fait, on ne peut pas vraiment donner de...
Ouais, Shakespeare étant lui-même un individu extrêmement mystérieux.
C'est ça.
Ouais. Pour le coup, l'acronyme, ça a été... Je crois que les quelques personnes qui font vraiment des recherches sur le sujet, plutôt dans le monde anglo-saxon, ont fini par dire que c'était pratique pour retenir un peu l'idée du drag, mais ça n'était pas une piste valide au final. Donc on peut vous laisser avec l'idée, avec le moyen mnémotechnique, mais
scientifiquement. Vous venez de nous expliquer que le Père Noël n'existe pas. Bien, merci. On est ensemble pour parler de Drag Race. Et évidemment, qui dit Drag Race dit Nikki Doll, et on va écouter Nikki Doll avec I Had a Dream. I had a dream, I was lonely, just wanna keep up, put up a bum. I had a dream, I wasn't sorry, no one to tell me, but all. Quand je passe de l'ombre à la lumière, alors c'est vos yeux qui me donnent vie. Quand je rentre sur scène, je me libère.
Blockbuster sur France Inter.
Pour la prochaine question, concentrez-vous. Ruby, citez-moi des heures comprises entre 14h et 15h qui comprennent pas deux fois le même chiffre.
14h52.
Correct.
Merci bien.
Lula.
14h32.
Correct. Misty.
J'ai pas compris.
Entre 14h et 15h, les chiffres ne peuvent pas correspondre.
Mais
j'ai toujours pas compris.
Désolé
pas compris.
Pour vous, Misty. C'est votre deuxième échec.
On est en finale, salut bébé.
Vous êtes le talon faible. Au revoir.
Salut.
Bisous, bye.
Au revoir, j'ai dit.
J'y vais.
Salut, Lady Gaga.
Allez.
Le Talon Faible, parodie de Drag Race France, inspirée du Maillon Faible, célèbre émission de TF1 présentée par Laurence Boccolini entre 2001 et 2007. Carole, justement, cette dimension des épreuves lors de Drag Race France, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
En fait, le drag, c'est beaucoup aussi de se moquer ou de présenter la société. Et donc, du coup, l'objet télévisuel qui est Drag Race réutilise tous les codes de la télé dans les jeux. Et par exemple, avec RuPaul, l'un des jeux les plus mythiques, c'est le Snatch Game, qui correspond à un jeu américain. Honnêtement, moi, la première fois que je l'ai regardé, en fait, je comprenais pas parce que ça appartient pas à ma culture. Il est réutilisé dans Drag Race France. Et en fait, le jeu, c'est d'imiter des les drag queens doivent imiter des personnages de la culture populaire. Et en fait, ils doivent jouer à un jeu où ils doivent matcher les réponses d'une personnalité qui est vraiment présente en plateau. Et ça existe, sur la télé américaine, pas chez nous. Mais par exemple, je trouve que Drag Race France a très bien réutilisé ça. Donc, ils gardent le Snatch Game parce que c'est tellement une référence pour ceux qui sont fans de RuPaul's Drag Race que ce serait dommage de les en priver. Et ils ont fait très bien sur la saison 1 aussi d'expliquer justement d'où venait ce jeu. Parce que moi qui l'avais regardé justement en anglais, comme disait Mylène, avec des sous-titres approximatifs et du coup n'avais pas les références. Et au début de l'épreuve, Nikki a expliqué d'où ça venait. Mais après, ils ont réussi à réutiliser ce système-là aussi. Par exemple, en réutilisant le maillon faible, en le transformant au talon faible et en réutilisant des codes propres à la France et la culture télévisuelle française.
Et il y a une dimension aussi très, très stand-up dans le drag Camomille, ils sont très très drôles.
Oui, alors stand-up ou pas stand-up, mais il y a une dimension comique, ça c'est certain. Mais après, c'est pas que les codes du stand-up qui sont réutilisés, il y a des drags qui sont très très fortes en stand-up. Je pense par exemple à le Philippe qui a gagné la saison 3, pardon pour le spoiler. Et donc le Philippe, quand elle a gagné sa saison, enfin avant de participer à sa saison, avait déjà un spectacle de stand-up qui tournait, un spectacle d'une heure où elle faisait des blagues, etc. Et donc le stand-up est un aspect effectivement qui est réutilisé par le drag, parmi plein d'autres codes de la comédie. Et je pense par exemple au drag américain qui a quelque chose de très très américain qu'on a un peu du mal à exporter en France, c'est le roasting, le roast, qui est le fait de se tacler les uns les autres.
C'est ce qu'on voit énormément chez justement les humoristes de stand-up avec les gens du premier rang.
De plus en plus, mais c'est quelque chose qui est quand même assez récent, moi j'ai l'impression, en tout cas sur la scène française. Et peut-être que ça vient de là aussi, mais effectivement, nous en France, on a un peu du mal. Et d'ailleurs, il y a dans la saison 3, ils ont fait un challenge de roasting. Donc, c'est en bon français, ça ne veut rien dire, mais c'est le fait de se passer au grill, quoi, je dirais.
De chambrer.
Ouais, voilà.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans des cérémonies officielles comme les Césars ou les Molières. C'est-à-dire une tradition qui existe aux Oscars d'avoir un humoriste qui vient vanner toute l'assemblée et pendant 15 minutes. Et c'est le jeu. Vous allez prendre un prix, mais vous allez vous en prendre plein la tronche. En France, ça passe très très mal.
En France, c'est beaucoup plus dur. Ouais.
Ah oui, on voit tout de suite les gens du cinéma se lever. Non, je ne suis pas d'accord. Dénoncer. Non, on a vu que Jamel, Florence Foresti et tout ça, on en fait les frais.
Mais c'est vrai. Mais du coup, c'est très très prégnant dans le drag, dans l'humour drag, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle encore une fois en bon français le shade. On dit throw shade, c'est mettre quelqu'un à l'ombre, quoi. Ça doit faire des traductions littérales un peu dégueu. Mais ça, c'est une façon de se charrier les uns les autres, et c'est vraiment quelque chose qui est très très prégnant dans le milieu de drag. Et donc, si t'as pas d'autodérision, faut pas se lancer dans le drag, parce que c'est sûr que tu vas t'en prendre plein la tronche et que tu vas pas passer des très bons moments, quoi.
Je pense que la version française, on peut dire il l'a ombragé.
Et ce serait joli, là, ombragé. Joli. On pourrait.
Voilà, je vais t'ombrager la tête.
Ouais. Sachant que dans Drag Race France, ils essayent au maximum de traduire tous ces termes qui, effectivement, viennent de la scène américaine. Et donc, parfois, ça donne des trucs un peu bizarres ou pas naturels. Mais ouais, voilà. On fait ce qu'on peut avec les termes.
Margot Rero, tout à l'heure, c'était Apolline qui a eu droit à une question très compliquée. Donc maintenant, c'est à vous. Quelle est la définition précise de ce qu'est un ou une drague ?
Alors, pareil, je vais vous dire qu'il n'y a pas de définition précise. Disons que je dois définir plutôt ce qu'est la performance drag plutôt que la drag queen, parce que pour le coup, il y en a autant que de personnes, en fait. Ce serait une performance spectaculaire qui déconstruit les normes de genre. C'est rendre artistique la transformation de soi. Et déjà, je trouve que c'est synthétique, mais parce que c'est vrai que définir ce qu'est une drag queen ou un drag king, c'est réduire forcément à des normes déjà qui sont mises en place par Drag Race notamment. Enfin, on peut très bien dire que RuPaul's Drag Race a un peu normalisé ce que devrait être la performance drag aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un de vous définir ce qu'est une drag queen, en fait, il y a de fortes chances que sa définition soit en lien avec ce qu'il ou elle voit dans l'émission de RuPaul's Drag Race.
Et ça peut aller plus loin que ça.
Bien sûr. De fait, en fait, ça marginalise un peu toutes les autres formes de drag qui peuvent exister. Par exemple, le lip-sync est devenu la performance drag par excellence, alors que ça n'a pas du tout et toujours été le cas.
En fait, je traduis pour les auditeurs, le lip-sync, c'est quand on fait semblant de chanter les paroles d'une chanson.
C'est un playback.
Un playback sur une chanson.
Un playback,
très bien fait.
Très bien fait, oui. En fait, c'est vraiment créer une illusion. Le lip-sync. Et donc, beaucoup de drag queens ne performaient pas en lip-sync. Enfin, quand j'ai découvert l'univers drag, c'était pas du tout avec RuPaul's Drag Race, que je ne connaissais pas. J'ai découvert avec une drag queen montréalaise très connue qui s'appelle Mado Lamotte et qui ne sait absolument pas performer en lip-sync et qui refuse presque de le faire aussi et qui chante en direct, qui fait des reprises de chansons, comme ça peut se faire aussi au cabaret Madame Arthur. Donc voilà, donc effectivement... la définition de la performance drag et de la drag queen, elle est complexe.
En posant la question, et plus on avance dans l'émission, je me rends compte du problème, du paradoxe de tout ça, c'est de définir quelque chose sur un art qui, par essence, veut justement échapper à la définition et à la normalisation.
C'est ça. Et ce qui est paradoxal avec RuPaul's Drag Race, c'est que malgré le fait qu'elle a offert une visibilité géniale à cette communauté, elle a aussi normalisé et codifié une performance qui justement essaye de se sortir d'une codification et d'une normalisation.
Si je peux rebondir un petit peu et compléter ce que Margot vient de dire. En fait, effectivement, la complexité de définir ce qu'est la performance drag quand on parle de drag race, on est forcément influencé aussi par les codes de l'émission et par ce qu'on voit. Il y a un formatage effectivement qui est très fort, qui est un peu pour le meilleur et pour le pire, et qui suscite énormément de discussions au sein de la communauté LGBTQ, en particulier au sein des communautés d'artistes drag. Donc, en fait, le Drag Race met l'accent sur la partie performance artistique, mais le drag, en fait, il y a aussi toute une dimension, quand on le voit en dehors de la télé, où ça repose sur des interactions, sur la manière dont on fait se sentir des gens dans une soirée, dont on arrive à créer une ambiance un peu particulière. Et moi, c'est une queen que j'ai interviewée dans mon bouquin et qui a fait Drag Race UK saison 4, mais qui est surtout un pilier de la scène de Manchester, chez Dark Gorgeous, m'a donné la définition que je donne le plus possible quand je le peux, c'est que le drag, c'est un art de la relation avant tout. C'est un art de la capacité à unir une salle le temps d'une soirée ou au-delà, de réussir à créer, faire que des liens se créent à travers les époques, à travers des références, à travers la manière dont on défend des propos politiques aussi, puisqu'en fait, quand on fait une transformation de soi à la base, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour du genre, mais pas que. On fait bouger des lignes de démarcation dans une société patriarcale, et donc c'est forcément intrinsèquement politique. Après, s'ajoute à ça, selon les personnes, selon les artistes, selon les histoires, des causes ou des sujets que chacune peut défendre de manière militante, plus ou moins explicite. Mais il y a forcément toujours une dimension aussi qui fait bouger, qui fait bouger quelque chose dans les normes.
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Allez, bon, et toi, Makaina, comment ça s'est fait que tu sois une drag queen aujourd'hui?
Ça a été un long processus.
Ouais.
Mais le drag, ça m'a un peu sauvé la vie aussi, je pense. Parce que moi, du coup, j'étais justement déjà très, très profondément dépressif.
D'accord.
J'ai fait des trucs pas très fun pour... comment dire?
Pour pallier un manque.
Pour pallier un... Ouais, c'est ça, si tu veux. Je fais des trucs à mon corps, à moi-même et à machin que...
De toute façon, c'est comme ça qu'on réagit. Hein.
Ça m'a permis de sortir du... De remettre à flot, en fait, tout ce que... tous les espoirs dans la vie que j'avais perdu, en fait.
Je trouve ça très important que des personnages comme la Kaina soient montrés sur le service public. C'est une drag queen racisée de culture musulmane. C'est la chose la plus rock and roll que je connaisse. Et c'est certainement une des plus courageuses ici.
La Kaina, c'est
la
ta
Kaina, psy. C'est le psy de Malek, c'est ça. Ouais.
Est-ce que ça nous coûte moins cher?
Non, ça me coûte 6 fois plus cher.
Vous venez d'entendre la Kaina drag queen qui a participé à la première saison de Drag Race. Et donc, on entend dans cet extrait qu'il y a quand même une dimension cathartique dans le drag très très forte. Je parlais dans mon édito de se venger du réel. Est-ce qu'avant même le spectacle, avant même le show, avant même le côté musique, etc., vie nocturne, c'est ça qui est primordial dans le drag? Apolline?
Moi, je crois hein, quand même, ce qu'on retrouve dans le parcours de beaucoup de personnes. Alors après, il y a aussi des personnes qui ont un parcours et qui se sont affirmées homo ou trans sans avoir un parcours affreux et heureusement aussi. Mais pour beaucoup de personnes, je pense, même pour, par exemple l'histoire de Nikki, c'est quand même de se venger aussi effectivement de l'assignation, du harcèlement homophobe et du rejet qu'il y a pu avoir de cette part de cette féminité qu'elle a visiblement toujours eu. Donc moi il me semble que oui, ça fait vraiment partie du truc. Après, la partie thérapie, pour nuancer un peu, au fur et à mesure, moi ce que j'observe et ce qui me semble être partagé, c'est que à partir du moment où il y a un personnage qui se crée, un propos artistique qui se crée, il y a quand même une dimension où la partie un peu thérapie, se faire du bien à son ego, passe un peu au second plan, puisqu'on devient, on s'affirme comme artiste avant tout, mais voilà, il n'empêche qu'il y a toujours et qu'il y a un travail un peu permanent aussi. Ça peut être déstabilisant en fait aussi de devenir drag queen ou drag king et de prendre une certaine place, de recueillir aussi une certaine attention au sein de public où justement on peut partager certains problèmes. Mais quand on est artiste, après on a ce fameux persona qui n'est pas soi, mais les gens viennent quand même nous voir pour nous confier des choses, on quand même projette potentiellement des choses pour nous. Donc en fait, le travail de thérapie, même s'il commence avec le drag, je pense qu'il faut le poursuivre absolument quand on s'expose, surtout quand après on fait Drag Race. Et en ça, ce qui est intéressant par exemple, c'est que dans la saison 2, il y avait le duo Rose et Pounani, et Rose dans la vie civile et psychologue, et a monté un petit programme parallèle à l'émission qui s'appelle Diva Divan, qui fait parler toutes les queens qui ont participé à l'émission de ce que ça leur a fait, de difficultés avec lesquelles elles ont dealé, et ça permet vraiment, je trouve, c'est visible sur Instagram, de donner, parce qu'on n'est pas dans les codes de la télé non plus, ça permet de donner un peu un aperçu un peu plus, un peu plus humain de, psychologiquement, qu'est-ce qui peut se passer quand on arrive sur une émission qui représente tellement à chaque fois pour toutes les personnes qui participent. Vraiment, je pense que Drag Race, c'est l'équivalent de la... C'est une Bible beaucoup plus fun que le Nouveau, l'Ancien Testament, mais c'est quand même la Bible pour beaucoup de personnes. Et,
il y a eu des petits passages fondards. Hein.
Ouais, exactement. Il y a des passages d'évangile, mais du coup, quand on participe à cette émission, ça peut aussi être assez déstabilisant. Donc, continuer de pouvoir en parler, de ne pas sous-estimer le fait qu'on a vraiment tout réglé à partir du moment où on est devenu drag, où on est devenu une star, moi ça me paraît vraiment important de le souligner.
Camomille, on parle beaucoup d'hommes, de drag queen, mais il y a aussi des femmes qui font des personnages de drag queen également.
Et oui, nous sommes là. Oui, en fait, ça aussi c'est une des choses qu'on peut déplorer entre guillemets à travers l'émission RuPaul's Drag Race dans un premier temps et Drag Race France pour l'instant pour les 3 saisons qu'on a pu voir, c'est que les femmes cis. Est-ce que je fais un petit point vocabulaire là-dessus ou on est bon?
Oh, allez, faites-le. De toute façon, je sais que je vais recevoir des mails en disant « Oui, vous n'avez pas été précis, c'est sûr. »
Donc, Donc cisgenre, qui est un adjectif qui s'oppose à transgenre et qui est tout simplement pour représenter les personnes qui sont nées dans un genre, dans un sexe assigné à la naissance et qui se reconnaissent dans ce genre, à l'inverse donc des personnes transgenres qui ont eu un genre assigné à la naissance et qui ne se reconnaissent pas dans ce genre-là et donc qui potentiellement vont transitionner vers un autre genre ou pas selon, enfin voilà. Dans l'émission américaine et dans l'émission française, pour l'instant, il y a eu que des drags qui sont donc des hommes cis qui utilisent les codes du féminin et ou des femmes cis qui donc vont plus loin dans l'interprétation de leur féminité, etc. sur scène. Et donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de femmes cis en drag, à l'exception, petite exception, des quelques kings qu'on a pu voir dans Drag Race France sur des mini-challenges. Donc dans la saison 3, il y a eu Sergei. Et dans la saison 1, il y a eu Judas la Vidange et son rock band. Il y avait Jésus, je pense, ouais. Jésus la Vidange. Oui. Et je crois qu'il y avait un autre.
Jésus la Vidange.
Jésus et Judas la Vidange, qui sont une famille de kings qui sont absolument hilarants. Il faut vraiment aller les voir. Voilà.
Ouais, c'est bon, ils m'ont déjà eu au pseudo. Hein,
et comme disait Margot, il n'y a pas vraiment de définition du drag. Enfin, c'est difficile de donner une définition du drag. En tout cas, on peut se dire qu'aujourd'hui, le drag va bien au-delà de la performance de genre dans le sens de l'inversion de son propre genre. Et je voudrais juste rajouter dans toute cette binarité qu'il y a aussi des styles de drag qui dépassent cette notion très binaire du genre, du féminin, du masculin, et qu'on peut définir par plein de mots différents. Mais moi, j'aime utiliser le terme soit de créature, soit de drag queer, et qui sont voilà, des performeurs et des performeuses.
En fait, pour résumer, parce que je sais que on a perdu.
Ouais, pardon.
Non, mais c'est pas grave, mais parce que moi-même, en préparant cette émission et que j'ai vu les différentes nomenclatures, etc., je me suis dit, le plus important, c'est la dimension de création, en fait.
Exactement.
On crée un alias, une identité, que ce soit homme, femme ou non-genré, non-binaire, mais on crée quelque chose qu'on a choisi de créer.
Exactement. En fait, on va au-delà, et c'est pour ça que moi, on me pose souvent la question « Ah, mais t'es une femme, t'es drag queen, c'est bizarre, machin. » Mais en fait, pour moi, la question de qui je suis ou de quel artiste, quelle personne civile se trouve derrière le masque, et je trouvais très pas mal le parallèle avec les super-héros, on s'en fout, en fait. La personne qui est derrière le masque, elle a peu d'importance à partir du moment où t'es sur scène, t'es un artiste, un performeur, une performeuse, t'es quelqu'un qui dépasse l'humain, qui transgresse, qui va au-delà de toutes ces idées qu'on peut avoir. Voilà. Et donc après, c'est des choix très personnels de dire « Ok, ben là, ce soir, je vais être très très féminine. Le lendemain, je peux aussi bien être un rocker, machin. Et puis parfois, je suis un alien, je suis toute bleue. Et en fait, je m'en fiche. »
Apolline, rapidement.
Mais j'aimerais juste préciser que en fait, la même, ne serait-ce que même si les femmes trans sont très importantes, par exemple dans l'histoire de la ballroom scene, dans l'histoire des cabarets, ça a été une sacrée bataille pour qu'elles soient castées dans Drag Race. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la culture drag en général. Dans la saison 1 de Drag Race, on a eu la briochée et ça compte énormément parce que les personnes trans sont sous-représentées dans tout le paysage audiovisuel global, et ça reste une bataille de pouvoir accéder à des représentations plus grand public.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
That was just right next to my ear.
Honey, that one's gonna bug me. That little one. She's already starting to bug. Little bitty Serena. She's kind of irritating. And by kind of, I mean she's irritating the shit out of me. On a constant.
I was born and raised in the Republic of Panama.
Where is Panama?
It's in between Colombia and Costa Rica. It's one of the number one retirement homes for Americans. You should consider going there.
Not if they're all like you.
Yeah, because your mouth doesn't shut.
Oh, okay.
It wears thin very quickly.
You know, I have a feeling you just like to be the only pretty one.
I just think you're annoying.
Un extrait de la 5e saison de RuPaul's Drag Race avec la drag queen Serena Chacha. Carole, y a aussi une différence entre Drag Race US et Drag Race France, c'est que on a vu apparaître aussi évidemment un gros business autour de la confection de costumes, des grands noms de couturiers, etc. Là où l'art du drag, c'est aussi l'art de se fabriquer, parler avec les moyens du bord, sa tenue de drag. Donc est-ce que aujourd'hui il y a ces deux courants entre une sorte de drag race un peu VIP de luxe et un drag race plus roots?
Bah oui, c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, les drag queens qui performent dans RuPaul's Drag Race ou même Drag Race France, elles ne sont pas forcément les autrices, auteurs de leur tenue. Sur certaines, il y a des challenges sur lesquels c'est à eux, elles, de le faire. Mais il y en a d'autres où, pour les défilés, la plupart des défilés, ils ont pu commander. Et du coup, ça peut aussi créer une inégalité parce que, y a des drag queens qui ont les moyens de se payer les meilleurs costumiers et d'autres qui les ont pas. Donc, forcément, ça peut aussi jouer en leur défaveur. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément bien présenté quand on est spectateur. Moi, je pensais qu'elles étaient tous auteurs de leur tenue. Et en fait, j'ai découvert que pas, notamment parce que Camomille écoute est costumière, notamment pour des drag queens, et a fait quelques tenues dans Drag Race. Donc, je l'ai appris aussi par elle. Mais c'est vrai, et ça peut être un peu déceptif le moment où on se rend compte que certaines n'ont pas fait leur tenue. D'un seul coup, on admirait tout, autant tout ce qu'elles ont créé, mais aussi tout ce qu'elles ont fait de leurs mains. Puis d'un seul coup, non, elles n'ont pas fait ça. Ça peut être un peu déceptif. Et aussi, en effet, ça peut être déceptif au moment de la performance. Quand on peut aller sur scène dans des cabarets, des fois, c'est des petits cabarets qui n'ont pas les moyens de Drag Race France. Et puis d'un seul coup, oui, c'est des gens qui sont habillés avec des friperies ou qui ont pas forcément un maquillage, pas forcément des perruques aussi folles avec des flammes qui sortent ou de ce qu'on peut voir dans Drag Race France. Donc...
Margot.
Oui, et si je peux rajouter quelque chose par rapport aux différentes saisons de RuPaul's Drag Race, par exemple, quand vous regardez les premières saisons, vous voyez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus bricolé chez les drag queens qui ont pu y participer. Et bon, c'est aussi en lien avec la notoriété. Plus l'émission a gagné en notoriété, plus les drag queens qui y participaient avaient un budget plus important et donc faisaient faire leurs costumes. Et c'est vrai que dans Drag Race France, la première saison, il y avait par exemple Ellipse, qui est une drag bordelaise, et qui fait ses costumes pour la plupart, même si Camomille en avait fait aussi certains. Et je trouve que ça n'a pas été mis assez en avant, même si on a pu le dire à certains moments, mais de dire, voilà, le travail qu'elle a fourni était énorme par rapport peut-être à d'autres qui ne sont pas déméritantes pour autant, mais qui ne faisaient pas leurs costumes, tout simplement. Donc,
Mais justement, cette dimension de spectacle qui surpasse tout et qui a tendance à effacer certaines nuances, certaines subtilités, le soutien, le suivi psychologique, les disparités économiques dans la fabrication de son costume de drague, les différents genres. Donc Camomille nous parlait qui peuvent composer, qui peuvent se créer un drague et qui sont peut-être un petit peu effacés devant une prédominance de certains hommes. Toujours. Est-ce que c'est pas aussi représentatif de la manière dont la France a une sorte de double langage vis-à-vis de la manière dont elle a reçu Drag Race France, de la manière on pense à la cérémonie des JO avec Thomas Joly où vraiment la diversité et l'inclusivité a été mis en avant et saluée par le monde entier, mais dans un pays où deux semaines avant une majorité de Français votaient pour des partis réactionnaires et qui, justement, sont opposés à ces idées-là. Est-ce qu'il n'y a pas un côté « Waouh, c'est génial Drag Race, c'est top, c'est fun » et puis en fait, une fois que l'émission est terminée, il fait « Bon, maintenant, je vais voter pour le Puy du Fou. » C'est...
J'espère vraiment que c'est pas les spectateuristes de Drag Race qui votent oui, pour les extrêmes.
Je pense que non. Mais disons qu'il y a quand même une sorte de... On cohabite dans une France qui a l'air d'aller dans deux directions très très opposées.
Ça c'est sûr. En revanche, c'est pas spécifique à la France là les problèmes qu'on vient d'évoquer qui sont structurels à l'émission, que ce soit disparité économique, cadrage sur certaines problématiques ou pas. C'est vraiment le standard américain et l'adaptation française a essayé d'ailleurs de quand même fait pas mal de pas de côté en trois saisons, des choses qu'on n'avait jamais vues, la présence de Drag King Moon qui part de l'émission pour raison de santé mentale. Enfin, c'est des choses inédites et qui témoignent, je pense, d'une intention vraiment particulière. populaire en France. Mais ça, du coup, ça n'a pas à voir avec nous, notre climat chez nous. En revanche, oui, on vit une période où c'est le succès que connaît Drag Race et en fait un certain nombre de petites victoires que remportent les féministes, les communautés LGBTQIA depuis quelques années post-MeToo. Bon, petites victoires qui peuvent être mettre des choses à l'agenda politique, quelques lois, mais voilà, des choses qui restent, ça reste très marginal à côté de l'ampleur des problèmes qu'on peut dénoncer de maltraitance des personnes LGBTQIA, de violences sexistes et sexuelles. Ces choses-là, oui, suscitent des réactions très fortes, ça suscite un raidissement réactionnaire, et le drag en étant un concentré de tout ce qui transgresse, tout ce qui symbolise en fait la liberté d'autrui, se retrouve être cible effectivement de d'attaques. C'est la cérémonie des JO, moi je l'ai trouvée intéressante dans ce qu'elle nous a permis effectivement d'avoir une bouffée de respiration à la sortie de la campagne anticipée des législatives, mais surtout dans effectivement l'ampleur des réactions qu'elle a suscitées. Jusque-là, Drag Race n'avait pas fait de vague à droite, à l'extrême droite, où c'était très marginal. Là, d'un seul coup, on a revu des levées de boucliers beaucoup plus traditionnelles, avec des vieux arguments homophobes autour de la perversion des enfants, patati patata. Et ce truc-là montre bien effectivement que voilà, avoir une case de service public qui est quand même déjà en deuxième partie de soirée, c'est une première bataille remportée. Néanmoins, quand on va dans des moments qui ne sont pas considérés comme spéciaux, là on voit bien où sont encore les limites de la compréhension et de l'acceptation inconditionnelle de ce que peuvent être les gens, de ce que peuvent être des citoyens français, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur bagage culturel, et ça ne fait que montrer à quel point ça, le drag peut continuer de faire du bien en France aujourd'hui, quand bien même il rentre un peu dans la norme.
Pour terminer, je vais filer ma citation du super-héros. Spider-Man a beau sauver le monde, il continue d'être critiqué dans les journaux. Donc, il faut que les drags continuent, parce que la bataille est encore longue à mener. Carole, un mot pour finir, très court?
Non, c'était justement parler du fait que ce soit normalisé des fois RuPaul's Drag Race. Après, c'est peut-être aussi une bonne façon de le rendre acceptable justement au grand public, et que ça a plein de défauts, mais c'est peut-être pas plus mal aussi, parce que ça donne des codes et les gens, ils aiment bien avoir des codes très clairs.
Eh bien voilà, merci à vous, merci d'avoir été avec nous dans Blockbuster pour évoquer l'émission Drag Race et plus largement le phénomène des drags. J'aimerais remercier Étienne Bertin qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani qui a été d'une aide essentielle pour m'aider à comprendre tout ça, puisque je suis pas au point. Et à la technique aujourd'hui, on remercie Théo de Lobadère. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Instagram @fredsigrist.
Pige, c'est trop tard. C'est votre deuxième échec. Vous êtes le talon faible. Au revoir. Bye. Bitch.